Bonjour, bienvenue sur France Inter dans le débat de midi. On se régale des sujets de société, on gloutonne de la discussion, on boostifie de palabres informées. Et si je vous dis été, vous me répondez pluie, gris, froid, oui, bon, d'accord. Mais si je vous dis vraiment été, hein, plus classique, avec de la musique, une scène, un chant, vous me répondez festival, bien sûr. En France, il y a près de 2100 festivals de musique pour un total de 7300 festivals, tout type confondu. Hein. Un phénomène en expansion depuis la fin des années 90, très apprécié par les régions et départements. L'année dernière, 4,5 millions de festivaliers ont participé aux agapes culturelles, très appréciés pour leur programmation et la possibilité d'un accès facile à la culture. Alors les festoches, comme on dit, ont bien évolué. Si on retrouve toujours la bière, la boue, le sarouel, les grands classiques, il existe désormais différentes formules et notamment VIP, on évoque alors l'expérience hein, qu'on y vit et les groupes l'ont bien compris en faisant monter des enchères de leur cachet de prestations scéniques. Monter un festival, c'est une vraie aventure, particulièrement ardue vu la concurrence. Alors certains ne rentrent pas dans leurs frais, et bien quand d'autres doivent mettre carrément la clé sous la porte. Si on rajoute à cela que l'été prochain, à cause des Jeux Olympiques de Paris, certains festivals craignent d'annuler, on se dit qu'il est vraiment préférable d'être spectateur qu'organisateur en ce moment. Alors, y a-t-il trop de festivals en France? On en discute dans le débat de midi et on vous attend hein, via l'appli France Inter pour laisser vos notes vocales et messages afin de participer à la discussion. Également via WhatsApp au 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07. Allez, le débat de midi lance un pogo dans la fosse. Bref, ça commence tout de suite.
Jean-Mathieu Pernin, le débat de midi. Sur France Inter.
Et pour parler des festivals, y en a-t-il trop? Alors on va essayer de tirer eh bien différents fils hein, de ce débat. Nous recevons Emmanuel Négrier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des festivals, auteur du public des festivals et co-auteur de Festivals, Territoires et Sociétés, directeur de recherche au CNRS. Également Jean-Paul Roland. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur des Eurockéennes de Belfort depuis 2001, co-créateur et activiste de la Fédération internationale de concerts. Également Sylvia Delabaume, bonjour.
Bonjour Jean-Mathieu.
Alors vous êtes fondatrice du festival indépendant musical et féministe Amapola qui se tient à Gazeran, c'est ça, dans les Yvelines. Donc c'est un terme qui a été choisi à la fois pour répondre à l'appel des coquelicots, hein, parce que Amapola ça veut dire coquelicot, c'est ça?
Tout à fait, en espagnol.
Voilà, exactement. Donc ça, on va en parler justement de ce festival. C'est un festival d'environ 1000 places.
Oui.
Ça comme ça. Et François Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Inrock et programmateur du festival Les Inrock qui donc se tiendra en 2024 et non pas à l'automne 2023.
Hein. Exactement. 2024. En mars 2024.
2024. Voilà. Alors on va en parler bien sûr. Juste avant, Jean-Paul Roland, je me tourne vers vous car ce matin il y avait un article dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France qui disait que les festivals qui se sont tenus au mois de juillet sont plutôt en bonne santé. Est-ce que c'est le cas des Eurockéennes de Belfort?
Alors c'est le cas des Eurockéennes de Belfort qui ont fait, j'allais dire, un peu leur vrai retour après 2 ans de pandémie et puis un vilain orage qui nous avait annulé la moitié de l'édition de l'année dernière. Mais on va dire que ça s'est bien passé, 125 000 personnes et puis j'allais dire les tracas habituels et puis bien entendu les joies aussi espérées quoi. Donc oui, ça, on est plutôt content.
Oui, c'est ça, c'est vraiment on peut dire cette fois-ci que les conséquences de la crise sanitaire sont derrière vous, pas?
Oui, mais peut-être que les conséquences, on les a encore pas tout à fait mesurées, notamment une, mais peut-être qu'on en parlera après. C'est peut-être le retour, on va dire, peut-être de ce qu'on appelle la génération Z, quoi. C'est ceux qui sont nés entre 97 et 2010. Concrètement, ceux qui ont entre 16 et voilà, et une vingtaine d'années. Donc, qui sont des nouveaux spectateurs. Est-ce qu'ils reviennent en masse ou pas? Quel est leur rapport à la musique live, etc. Ça, c'est quelque chose encore qui reste une interrogation pour nous, sachant que c'est une génération qui est peut-être moins attachée comme nous aux salles, j'allais dire, au Bataclan, les Montmartre, ouais. Et ça, mais qui sont plus attachés, j'allais dire, à l'artiste.
Artiste. Alors ça, c'est pour aussi un festival assez conséquent. Sylvia Delabaume, vous, pour un festival de plus petite taille, est-ce que le bilan a été bon au mois de juillet?
Le bilan est très positif. Nous aussi, ce qu'on propose sur Amapola, c'est un festival pluridisciplinaire. Donc il y a de la musique, mais il y a aussi des scènes de performance, il y a des ateliers. C'est un festival engagé sur l'écologie et le féminisme. Donc on arrive à toucher aussi un public assez diversifié qui était au rendez-vous pour cette année. Et pour nous, c'était une troisième très belle édition.
Voilà, alors on le voit en tout cas, en effet, en suivant vos commentaires et cet article du Parisien, toutes tendances confondues, quelles que ce soit musicale, que ça soit théâtrale, que ça soit aussi en musique, alors que ça soit quel que soit votre genre, que ça soit des musiques classiques ou du rock, du rap, de l'électro, et bien les festivals ont bien marché. En tout cas, cet été. Alors Emmanuel Négrier, je rappelle, vous êtes sociologue des festivals. Est-ce qu'on peut dire, en effet, qu'aujourd'hui en France, il y a beaucoup de festivals et une offre pléthorique comme bien on n'en a pas eu jusqu'à présent?
Oui, on peut le dire parce que on a l'année dernière réalisé une cartographie intégrale des festivals et effectivement on a constaté que en dépit de tous les signaux qui avaient été posés ces dernières décennies, notamment la crise de 2008 et puis ensuite les restrictions de subventions, et on constate que le nombre de festivals ne cesse d'augmenter et la part des festivals des années 2010 est supérieure des festivals créés à partir de 2010 et était encore supérieure à l'ensemble des festivals créés dans la décennie précédente, etc. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire en France, mais que nos collègues d'autres pays, en Allemagne, en Espagne en particulier, constate aussi. Donc ouais. Effectivement, il y a un phénomène extrêmement lourd et structurel.
Une tendance assez globale. Alors François Moreau, c'est vrai que vous-même, en tant que journaliste, vous couvrez des festivals. J'imagine que maintenant, bien votre planning a dû s'agrandir vu le nombre. En effet, je citais tout à l'heure, notamment en musique, il y a 2100 festivals de musique en France, toute musique confondue. Ça commence à faire vraiment beaucoup là.
Ça fait pas mal. Ça fait c'est assez compliqué de tout pouvoir couvrir. Alors après. Ce qui se passe avec un journal comme Les Inrocks, c'est qu'on a circonscrit en fait les festivals à travers un peu la musique qu'on traite au quotidien sur le site et dans le magazine. Ouais, mais c'est vrai qu'en traversant un peu l'été, on se rend compte qu'on a cette chance quand même, mine de rien, en fait, d'avoir tous ces festivals qui sont. En tout cas, nous, aux Inrocks, on décide de ce qu'on va couvrir. Ça nous permet d'aller voir des petits festivals, aussi des mastodontes, et d'aller même à l'étranger, en fait, voir un peu comment ça se passe là-bas et pouvoir un peu comparer tout ce qui s'y fait.
Sylvia de Labeaume, pourquoi, finalement, au début, vous montez un festival aujourd'hui en France? Pourquoi ça vous semblait être une réponse ou une proposition intéressante?
L'idée de Amapola, elle vient de plusieurs éléments. C'était après une année à New York, où du coup, il y avait vraiment une découverte de la fête créative, inclusive et safe aussi. Je suis allée au Burning Man aussi, qui était une vraie source d'inspiration, où du coup, c'était découvrir un endroit où on pouvait partager des valeurs et surtout planter des graines qui après pouvaient se déployer tout au long de l'année. Et quand je suis rentrée en France, je me suis retrouvée confrontée de nouveau à la fête pas très inclusive, pas de plateau féminin, on a un peu peur des mecs relous dans les fêtes, et donc on avait très envie avec mon frère de en fait permettre d'avoir un espace pour les artistes femmes, de créer un safe space pour des publics plus féminins, et aussi de profiter en fait de ce moment de rassemblement pour transmettre des valeurs d'engagement autour du féminisme et de l'écologie.
Et le fait de créer un festival, ça vous a pas au départ inquiété vu le nombre en effet de festivals? Vous n'êtes pas dit oh là là, il y en a tellement que ça va être compliqué aujourd'hui de se faire une place?
On n'a pas trop pensé à ça. On a des caractères plutôt impulsifs, donc c'était un peu non, on avait envie de faire ça, et puis on a dit go, c'est parti. En fait, il y en a pas des festivals féministes en France qui proposent vraiment des programmations paritaires et qui réfléchissent à compter le féminisme et l'écologie de vraiment façon transversale et systémique dans l'organisation du festival. Donc on s'est dit qu'il y avait un créneau. Nous, on voulait faire notre premier festival en 2020, donc ça a été annulé avec le Covid. Et il y a aussi eu beaucoup d'éclosions, je pense, de festivals post-2020, en fait, avec de plus petits festivals qui se sont créés suite à la non-offre des gros festivals. Donc voilà, en tout cas, sur le moment, ça nous paraissait tout à fait possible de le faire.
Alors, Jean-Paul Roland, aujourd'hui, quand on voit le nombre de festivals, de temps en temps, les Eurocannes de Belfort, on se dit, c'est un festival maintenant qui a un peu de barbe, qui a un certain nombre d'années. Comment vous avez vu, justement, vous éclore autour de vous tous ces festivals? Est-ce que vous craignez aujourd'hui eh bien, cette concurrence qui monte de plus en plus?
Non, mais moi je crois qu'il faut quand même s'enorgueillir d'être dans un pays où, je veux dire, on peut aller, je sais pas, au festival d'art lyrique, voilà, à Aix, et puis aussi aller à Clisson, voir un des meilleurs festivals de métal certainement au monde.
Fesse, oui.
Je crois que ça c'est quand même une chance. Il y a aussi une autre chance quand même. C'est aussi le prix des festivals. Je veux dire, en France, même si le pouvoir d'achat est un peu plus élevé peut-être que nos voisins, notamment espagnols, mais on reste dans des tarifs qui restent encore modérés. Pour combien de temps, je n'en sais pas. Par contre, si vous me demandez effectivement comment je vois, et c'est ça la question, je vois le paysage, moi je le vois plutôt avec beaucoup de joie. Je pense que, en fait, il y a beaucoup de festivals, certes, mais il y a surtout, peut-être, et c'est peut-être ça qui manque, c'est peut-être un peu des récits. L'exemple que vous avez, qui vient d'être décrit tout de suite avec l'Amapola, est un bon exemple. C'est un vrai récit, c'est quelque chose... Moi, je préfère récit à expérience, hein, parce que maintenant, vous savez...
Oui, exactement, ce terme, en effet...
Voilà, on va manger un éclair quelque part, c'est une expérience. Bon, ce que je veux dire, c'est que le récit, par contre, ça veut dire aussi qu'il y a des gens pour le raconter, et ça veut dire aussi qu'il y a une direction artistique. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus simplement dans une sorte de programmation, mais on crée quelque chose, quoi. On crée une histoire et les gens viennent participer, bien entendu, à cette histoire-là. Donc, peut-être que c'est ça qui manque un peu.
C'est le risque pour vous aujourd'hui de voir de plus en plus, finalement, d'événements, et si justement je n'utilise pas le terme festival, d'événements se monter sans véritable histoire derrière, sans véritable construction même et envie par rapport à la programmation et par rapport à la démarche?
Bah ça c'est peut-être un peu désolant, mais si je prends l'exemple des Eurokéennes, effectivement on a un peu de poil au menton, mais j'allais dire depuis qu'il y a il y a jamais eu autant de monde depuis qu'il y a autant de festivals, vous voyez, donc je pense aussi que les festivals, ils ont aussi dans leur région, ils ont construit aussi leur public. Avant c'est vrai qu'on associait complètement le festival à la jeunesse, c'est plus tout à fait le cas. On peut effectivement voir maintenant plusieurs générations, voir le grand-père avec la petite fille ou le petit-fils venir voir le même artiste. Donc je pense que tout ça c'est quand même quelque chose qui est important. En plus les festivals, je veux dire, c'est important socialement. Nous, vous savez, je sans être trop bavard, mais le week-end où on a fait les Eurokéennes, c'était le week-end des émeutes. Donc les images qui étaient diffusées, c'était des images de guérilla urbaine, et on avait nous des images, enfin moi je voyais en direct des images qui étaient pas du tout de la guérilla urbaine mais plutôt de joie, et en plus il y avait les gendarmes étaient là, vous voyez, donc ce mélange-là, il était quand même socialement, il était même intellectuellement intéressant. Je dis pas que ça donne des exemples sur la société, mais en tout cas, c'est des moments qu'on doit préserver.
François Moreau, pourquoi d'après vous, ce nombre a-t-il explosé en France?
Bah, je pense qu'en fait, tout le monde a eu cette expérience des festivals. Je crois que je connais les chiffres. Bon, il faudrait peut-être les revoir un peu, mais je crois qu'il y a beaucoup de festivals encore actifs aujourd'hui qui sont nés dans les années 2000. Il y en a beaucoup en fait qui ont plus de 30 ans, 40 ans. Je pense à Hard Rock à Saint-Brieuc, ou je pense à la Route du Rock à Saint-Malo. Et je pense qu'en fait, on a tous vécu ces festivals-là. On a tous rêvé en voyant les affiches qui étaient des affiches musicales quand même à l'époque, quand on voulait aller aux The Rock par exemple,
je fais un petit lapsus.
les The Rock, en fait, c'était à chaque fois c'était l'affiche l'affiche en fait qui nous donnait envie d'y aller. Moi quand j'étais jeune, je ne savais même pas à quoi ressemblaient les The Rock de l'un Belfort, je savais pas où c'était, mais je voyais l'affiche et je voulais aller là-bas, quoi. Et je pense qu'on a tous vécu ces expériences là et on s'est rendu compte que avec le temps on avait 25 ans, 30 ans, 35 ans, et puis on avait les moyens, nous-mêmes, de créer nos petits festivals. Je dis nous, pour français général, pas moi en particulier, mais moi je connais, j'ai plein d'amis qui ont monté des petits festivals, ça a duré 3 ans, 4 ans, dans les Yvelines notamment, le bateau festival à l'époque. Et en fait, c'était un moyen, en gros, de se dire, bon, on peut le faire nous-mêmes, on peut créer notre petit monde à nous, notre petit festival, et il durera le temps que ça durera. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait éclore un peu tout ça, mais là je parle plutôt des sphères un peu indie. Après, je pense qu'il y a beaucoup de festivals dont j'ignore un peu les tenants et les aboutissants, mais c'est vrai qu'après il y a d'autres, je pense aussi que potentiellement, je pense que les villes, les territoires et tout avaient aussi envie d'avoir leur rendez-vous musical.
C'est ça,
et je pense qu'il y a eu beaucoup de politique publique dans ce sens-là, et je pense que c'est une partie de l'explication, en tout cas.
C'est ça, alors Emmanuel Négrier, c'est ça aussi, c'est véritablement ces régions, ces communes, ces départements qui ont compris que derrière il pouvait y avoir une manne économique.
Le premier qui a parié sur la festivalisation, c'est Jacques Lang. quand il a créé donc une politique culturelle fondée sur des équipements dont il sentait que il n'allait pas forcément être visible à la fin de son mandat, il s'est dit il faut absolument que j'accompagne ce vaste mouvement par un mouvement de festivalisation qui s'est traduit notamment par les Journées du Patrimoine, les Arts au Soleil, la Fête de la Musique, etc. Donc là, il y a la conscience que il faut sans doute partager la culture dans des conditions festives et que ça marche. Alors effectivement, quand on regarde les motivations aujourd'hui à créer des festivals, je rappelle que il y a 33% des festivals qui ont été créés depuis 2010 et que les festivals qui existent encore aujourd'hui et qui ont été créés avant les années 2000 ne sont que presque pas tout à fait la moitié des festivals existants. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un mouvement très très fort, mais les motivations évoluent. Alors ce qu'a dit Jean-Paul Roland tout à l'heure sur la notion de récit effectivement est tout à fait juste. Un festival, c'est d'abord un projet collectif qui a une dimension territoriale, et là vous avez tout à fait raison de dire que les collectivités territoriales ont parfaitement senti le mouvement en accompagnant un nombre assez considérable de festivals, et c'est sans doute ça une des caractéristiques distinctives de la France par rapport à d'autres pays, le rôle que les collectivités publiques, l'État dans la période récente, mais les régions, les villes et les départements, ce rôle que ces collectivités ont joué dans le développement des festivals. Mais ce développement n'existerait pas si, par ailleurs, il n'y avait pas un engouement public considérable. Et quand je parle d'engouement public, je parle effectivement, bien sûr, des publics, mais je parle aussi de tout l'écosystème humain autour des festivals où on compte en particulier les bénévoles.
Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur une chose. François Moreau, il y a quand même juste quelque chose d'étonnant dans les gros festivals d'aujourd'hui. On peut comprendre en effet le succès quand on voit les Auroch, quand on voit le Main Square, quand on voit, parce que c'est des programmations assez larges. L'énigme pour beaucoup de gens, c'est le Hellfest. Le Hellfest, donc festival de métal, le plus gros d'Europe, je crois. C'est quand même étonnant, cette aventure que la France ait réussi à créer ce festival qui, au départ, en effet, sans l'aide de collectivités locales qui avaient peur par rapport à la réputation du métal et du hard rock.
Je connais pas très bien l'histoire du Hellfest, mais en tout cas, je pense que peut-être que ça traduit aussi qu'on avait sous-estimé qu'il y avait un public aussi fervent, pour ces musiques qui sont les musiques extrêmes. Et qui en fait sont très répandus en France. Il y a énormément de groupes qui jouissent d'une aura incroyable à l'étranger qu'on connaît moins en France. Et je pense qu'en fait, on a peut-être sous-estimé ça. Donc en fait, dès lors qu'on sous-estime ça, on sous-estime la capacité d'un festival, aussi indépendant soit-il, à arriver à construire une telle entreprise que celle du Hellfest.
Oui, c'est ça. Oui, ça fait partie maintenant des trois plus gros festivals en France. Allez, on va continuer à parler des festivals et on va se poser la question maintenant, justement, est-ce qu'il y a une offre finalement qui est trop pléthorique ? Est-ce qu'il y en a trop de festivals ? Dans un instant, après, un artiste qui, alors lui, a rempli l'année dernière tous les festivals, c'est Aurel San et les Neptunes avec Dernier Verre.
Elle m'a dit juste un dernier verre, juste un dernier verre. Elle m'a dit juste un dernier verre, juste un dernier verre. Il est déjà minuit, il est déjà minuit. Je vois mieux de m'en aller, je vois mieux de m'en aller. Je connais ce moment par cœur où tout peut basculer, où tout peut basculer. Je connais déjà la suite, je connais déjà la suite, je connais déjà la suite. Dans deux verres il est 5 heures et je dirais juste un dernier, juste un dernier. She says it's been a minute since her friends are hurt, been outside. Je l'appelle pas son instinct, je connais pas son vrai nom.
sais qu'il est tard et je veux mieux d'être à la maison. Vaudrait mieux s'en aller. Juste un bien sûr, je veux boire un verre, sinon qu'est-ce que je peux faire à 3h du matin avec une bonne meuf? À part peut-être niquer ma vie et celle de la fille que j'aime en lui brisant le cœur. L'ado que j'étais m'est différent pour moi. L'homme de maintenant répond qu'est-ce que je fous là? Juste un dernier verre et je m'en vais, laissons le passer, passer.
Elle m'a dit dans 2 minutes, j'attendrai devant la salle.
Devant la salle.
Ce genre de problème dont j'ai jamais besoin dans ma life.
Dans ma
elle attend qu'un signe. Elle attend qu'un signe.
Elle attend qu'un signe.
Et je me dis juste un dernier verre, ça peut pas faire de mal.
Faire de mal. Elle m'a dit juste un verre et je sais pas dire non. Je l'appelle par son instinct, je connais pas son vrai nom. Mais je sais qu'il est tard et je veux mieux d'être à la maison. Faudrait mieux s'en aller. Juste
they wanna go in, they wanna go in. Elle attend qu'un signe, elle attend qu'un signe,
elle attend qu'un signe.
I wanna go in, I know you feel it going. Elle attend qu'un signe, j'essaie de m'enfuir,
j'essaie de m'enfuir.
Girls outside with all the FOMO. Guess tonight ain't fair, they wanna go in. Like a fish that's out of water, choking on the air, they wanna go swim. I wanna go in, I wanna go in. I wanna go in, I know you feel it going. I wanna go in.
Débat de midi sur France Inter.
Sur France Inter, le débat de midi, nous parlons festival ou festoche, hein, comme on dit dans les milieux autorisés aussi. Eh bien, les festivals, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a trop de festivals, vu que l'offre est pléthorique, hein, près de 2000 festivals de musique cet été et un petit peu durant l'automne et l'hiver. Vous pouvez bien sûr participer à la discussion en allant sur l'appli France Inter pour nous laisser des notes vocales et des messages, ou par WhatsApp au 07 74 13 70 07 07 74 13 70 07. Alors il y a Maude, hein, qui nous a écrit ce message. Il nous dit que ce débat est assez parisien, notamment les Parisiens qui ont accès toute l'année à une grande diversité de concerts. Sans les festivals, nous, les habitants de province, je ne sais pas où habite Maude, et surtout de zones rurales, n'aurions pas accès à la culture. Est-ce que Emmanuel Négrier, on est encore véritablement là-dessus avec les festivals? Une offre pour des habitants en France qui n'ont pas accès à la culture toute l'année.
Ben c'est très net. Sur, je rebondis exactement sur le constat de Maude.
Oui.
Et effectivement, pour beaucoup de territoires, les festivals jouent un rôle d'accès à la culture qui ne pourrait pas être supporté dans le cadre de programmation annuelle, puisqu'il n'y a pas les moyens humains, matériels, financiers pour organiser des saisons là où se déroulent des festivals, en milieu rural en particulier. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde la carte des festivals, on observe qu'il n'y a quasiment pas de trous dans la raquette. Il y a très peu d'endroits où il n'y a pas de festival. Et souvent, d'ailleurs, la musique joue un rôle majeur dans le développement de ces festivals.
Alors ça se concentre surtout dans 3 régions, hein, vraiment les festivals. On a pu le voir selon le rapport présenté par le ministère de la Culture à propos des festivals 2022. C'est la Bretagne, les Pays de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, ce sont les 3 régions qui concentrent le plus de festivals. Sylvia Delabaume, pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi, quand on voit les enjeux financiers aussi d'un festival, quand on le monte, est-ce qu'on y pense tout de suite? Est-ce que c'est ça en premier, avant la programmation, avant ce qu'on peut proposer, l'enjeu financier aussi, parce qu'on le sait que ça peut être lourd, un festival?
Alors, au début, quand on le monte, on n'y pense pas forcément, et puis très vite, on est obligé d'y penser, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à payer. Aujourd'hui, nous, notre économie, elle est encore fragile, elle est portée par un collectif bénévole. On repose à 99% sur une économie, enfin, en ressources propres, donc de la billetterie et de la consommation, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, ça nous force aussi à déployer toute l'énergie possible et inimaginable pour aller attirer des publics, pour élargir notre cercle et que ça soit au-delà du bouche à oreille. Mais oui, forcément, l'économie des festivals, je pense que c'est un sujet de toute façon plus large, petit, moyen, grand festival.
Est-ce que pour vous, ce que disait tout à l'heure Jean-Paul Roland à propos des récits, il vous citait d'ailleurs en exemple, mais est-ce que pour vous, il y a une différence entre votre festival, par exemple, et d'autres festivals un peu, beaucoup plus gros à échelle, vraiment, qui ne sont plus du tout humaines, hein. Je rappelle que vous, pour votre festival, on est sur du 1000 places. Est-ce que pour vous, vous participez finalement à la même démarche?
Je pense que, en tout cas, on a la même envie qui est de rassembler les gens, de proposer une expérience, de faire découvrir des artistes. Mais effectivement, il y a vraiment des tailles de festivals différentes. Nous, aujourd'hui, on a un petit festival. Donc oui, on a envie de créer des nouveaux récits. On a envie de planter des graines auprès des festivaliers et festivalières, de faire découvrir des talents émergents. On n'est pas à la recherche de la programmation de l'artiste connu. En fait, on a plutôt envie de faire découvrir des artistes. On se laisse aussi la possibilité de se trouver. En fait, on a moins d'enjeux, je pense, qu'effectivement des gros festivals qui bookent Aurel San. On a envie de proposer aussi une expérience différente et du coup, c'est de proposer aussi de la musique, ce qui est évidemment le plus représentatif de notre festival. Mais en fait, par exemple, le samedi après-midi, on coupe la musique jusqu'à 18h pour plutôt proposer une expérience avec du théâtre, de la performance, du stand-up, des ateliers et en fait, obliger un peu le public à se poser et à découvrir autre chose,
c'est ça. Alors, il y a Sylvie aussi sur l'appli France Inter qui nous dit « Mon meilleur festival sous la pluie et suite crise sanitaire, c'était Pause Guitare à Albi, juillet 2021, l'impression d'avoir Feu Chatterton pour nous seuls et de pouvoir toucher Jean-Louis Aubert. » C'est souvent ça aussi dans des festivals, en effet, à taille humaine, où on a l'impression d'être plus proche des artistes. Mais alors, à un moment, Jean-Paul Roland, il faut attaquer un sujet qui est toujours sensible avec les festivals, c'est la programmation. Sur le site donc de Radio France, on peut aller trouver cet article. Quel artiste participe le plus au festival cet été? Et on voit en effet qu'il y a certains artistes comme Adé, par exemple, l'artiste française, qui est à l'affiche de 28 festivals cet été. Je crois qu'elle est passée par Belfort d'ailleurs. Comme elle, Isia, Angèle, Suzanne ou d'autres aussi, ont squatté les scènes cet été. Tout de même, 28 festivals. Revient à ce moment-là, cette fameuse phrase, Jean-Paul Roland, tous les festivals ont la même programmation.
Oui, mais je crois pas. En fait, je crois vraiment pas parce que, vous voyez, c'est quand même assez paradoxal parce que on pourrait presque finalement, on ferait le contraire, c'est-à-dire que Adé ne passerait dans aucun festival, on accuserait les festivals de ne pas être attentifs à la scène francophone. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a des goûts de public et puis il y a des demandes et puis il y a aussi des artistes qui sont en tournée et d'autres qui n'y sont pas. Quand vous voulez un artiste qui n'est pas en tournée, il faut bien entendu avoir d'une part l'argent pour arriver à le convaincre, en plus estimant que vous ne faites pas quand même, vous allez augmenter un peu l'impact environnemental à faire venir quelqu'un que pour vous. Moi, je crois surtout que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que effectivement, nous avons fait jouer AD comme certainement 28 autres festivals, d'après ce que vous dites.
C'est ça, exactement.
Mais par contre, je pourrais vous parler, d'artistes qu'on a découverts au Burkina Faso et qu'on a fait venir à Kawoto et d'autres. Donc, je pense que c'est souvent un petit peu le haut du panier, comme ça, de médiatisé qui cache peut-être un petit peu tous les efforts, je veux dire, de découverte et d'exposition, où les festivals, à mon avis, remplissent là leur rôle réellement de découverte, puisque de toute façon, le rappeur dont je vous parle, s'il était peut-être venu à Belfort dans l'année jouer dans une salle, peut-être qu'il y aurait eu 10 curieux qui seraient venus le voir, tandis que là, il a joué devant plusieurs milliers de personnes. Donc, je crois que c'est cet équilibre-là, bien entendu, sur lequel les festivals doivent être bien entendu attentifs.
Emmanuel Négrier, sur cette sensation de voir les mêmes artistes parcourir les festivals l'été?
Oui, alors deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, les têtes d'affiche jouent un rôle majeur pour le renouvellement des publics. C'est-à-dire qu'effectivement, on a constaté que quand les publics venaient pour la première fois dans un festival, ils venaient pour la tête d'affiche. Oui. Il y a vraiment un caractère très attractif de cette tête d'affiche. Alors effectivement, on les voit circuler de plus en plus dans les festivals. Ça, c'est la festivalisation qui le produit. Ça a un côté vertueux, d'ailleurs, au moment où on parle d'environnement, c'est que la principale cause d'empreinte carbone des festivals, c'est le déplacement des publics. Or, en fait, plus il y a de festivals, moins ces déplacements sont nombreux et plus on voit une régionalisation des publics. Autrement dit, si c'est la tête d'affiche qui circule et pas les publics pour aller la voir à 1000 km, ben c'est plutôt vertueux sur le plan écologique.
Mmh. D'accord.
Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que derrière cette attractivité des festivals, il faut quand même se poser la question de qui ça attire et qui reste un petit peu en bord du chemin de la festivalisation. On disait tout à l'heure que les festivals jouaient un rôle majeur dans le fait d'avoir un rapport à la culture, notamment dans les zones rurales.
Ouais.
Mais les personnes qui, dans l'année, n'assistent à un concert que dans le cadre d'un festival, c'est-à-dire vraiment ce rôle majeur du festival qui, s'il n'était pas là, supprimerait tout rapport à la culture, ça ne concerne que 6% des publics.
Mmh.
Autrement dit, l'essentiel du public, c'est quand même un public qui va à un festival, à un autre, qui participe à une programmation de saison, etc. Mmh.
François Moreau, sur ces têtes d'affiche, en effet, on le voit, les festivals en ont besoin, mais il est vrai, quand même, quand on regarde à un moment, il y a des week-ends où il y a une concentration de gros festivals notamment, on retrouve quand même certains noms.
Ouais, c'est vrai. On retrouve les mêmes. Et puis, c'est assez marrant aussi de voir que si on dézoome et qu'on regarde ce qui se passe en Europe, on voit aussi qu'ils passent avant aussi en Europe ailleurs. Donc, on peut voir un peu le parcours de Blur qui passe de Primavera à Barcelone, ensuite à Madrid, ensuite ils vont aller au Vieille Charrue, etc. Donc, en fait, on voit aussi qu'il y a toutes ces têtes d'achille. Bah, après, c'est aussi, déjà, il y avait, Jean-Paul Roland l'a bien dit, en fait, les artistes, en fait, sont en tournée. C'est-à-dire qu'en fait, débaucher un groupe comme ça de nulle part, une grosse star ou pour attirer un public, ça se fait moins parce qu'en fait ils sont pas en tournée, donc il y a toute une économie qui est pas en branle encore derrière et tout ça. Donc en fait déjà il y a un marché, il y a ce qui est disponible, et puis en plus ensuite c'est vrai que si effectivement les festivals sont surtout fréquentés par des gens du territoire, il faut qu'ils puissent quand même avoir accès à ça, et surtout que ces artistes-là, en fait, sont le haut du panier. C'est eux qui attirent aussi, et c'est aussi ça qui permet, je pense, en fait. Bon, après, ça c'est un peu tout ce qu'on dit sur les programmations en général, mais que en gros, les têtes d'affiche permettent aussi de faire découvrir ce qu'il y a derrière. Et c'est là où en fait les festivals se distinguent aussi.
Oui. Alors, Jean-Paul Roland, juste un mot aussi par rapport à la construction de votre programmation. On voit aujourd'hui aussi des artistes, des têtes d'affiche qui sont de plus en plus chères. Est-ce que ça devient difficile pour l'équilibre des festivals, même importants, aujourd'hui, d'avoir des têtes d'affiche?
Oui, c'est compliqué, surtout avec le retour, j'allais dire, un peu de post-pandémie, où finalement les groupes internationaux revenaient, mais ils sont revenus, bien entendu, à quel prix ? Et c'est devenu quelque chose, effectivement, presque d'inatteignable. On peut regarder aussi, ça, c'est corrélé, je pense, aussi au nombre, par exemple, de méga-concerts. Hein, regardez le Stade de France, combien de concerts il y a eu, où finalement un artiste, peut-être The Weeknd ou d'autres, préfère finalement jouer peut-être 2-3 fois dans un stade de France que de faire finalement une tournée des festivals. Ces têtes d'affiche, elles sont devenues vraiment presque hors de prix. Mais j'allais dire, moi je me console un peu en me disant, bah finalement voilà, c'est effectivement une difficulté de plus qui nous oblige finalement à réfléchir sur ce qu'est un festival. Mmh. Un festival, en tout cas, c'est d'abord une sorte, on essaye, une âme, et que des gens viennent dans ce lieu-là, finalement, plutôt que, malgré tout, un peu à contre-courant, simplement que sur le nom d'un artiste. Donc ça nous oblige finalement, nous, organisateurs de festivals, à repenser le festival comme une sorte d'entité un peu globale, avec bien entendu l'ensemble des services que vous connaissez, etc., qu'il y a de plus en plus. Donc, bien entendu, je me console pas, hein, mais on va dire que après, et puis il y a aussi une histoire de morale. À un moment donné, bien entendu, est-ce que c'est moralement défendable de payer un groupe, je sais pas, 2 millions d'euros pour qu'ils viennent presque des fois même pas une heure jouer quelque part, quoi. Vous voyez, c'est ça qu'il faut, ce à quoi il faut maintenant désormais réfléchir.
Voilà, plusieurs millions d'euros, comme on dit, par exemple, comme un groupe comme Metallica, hein, par exemple, qui se déplace, notamment quand ils avaient joué au Hellfest. On n'a pas le prix du Hellfest, mais on commence à connaître ces tarifs. Alors, grâce au WhatsApp, au 07 64 13 70 07, vous pouvez commenter, bien sûr, et participer au débat de midi. Et il y a Philippe... non, pardon, c'est pas du tout Philippe, c'est Rose, en fait. Voilà pourquoi Philippe, d'un coup, je ne sais pas. Ça arrive, hein, il peut s'appeler également comme ça, qui nous pose cette question assez intéressante là-dessus, sur quelles ressources peuvent avoir aussi les festivals, Sylvia, c'est-à-dire de la Baume. Est-ce que vous êtes aidé vous-même pour expliquer un peu justement cette économie du festival? Est-ce que la région, vous travaillez donc, c'est dans les Yvelines, votre festival, est-ce que le conseil, le département des Yvelines vous aide? Est-ce que même la localité vous aide? Comment ça se passe au niveau des financements?
Aujourd'hui, on a fait pas mal de demandes de subventions cette année auprès d'organismes comme le CNM, la SACEM, effectivement au niveau de la région. On a la SACEM qui nous a soutenus à une petite hauteur. mais pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir des subventions d'autres organismes. Donc, j'ai parfois l'impression que c'est un peu un cercle vicieux, parce que c'est aussi parce qu'on ne paye pas suffisamment les artistes et du coup, on n'atteint pas les subventions, mais on payerait plus les artistes si jamais on avait des subventions. Donc, voilà. Après, nous, avec on travaille vraiment main dans la main avec la mairie de Gazeran qui nous aide, qui nous fait du prêt de matériel. Donc voilà, ça c'est aussi des coûts en moins. Mais sinon, non, on fait vraiment un budget prévisionnel qu'on atteint avec notre billetterie et les consommations. Et pour l'instant, on a aussi des prestataires qui sont assez flexibles sur les paiements et qui acceptent qu'on les paye proche du festival ou juste après. Enfin voilà, qui ne nous demandent pas en tout cas des acomptes 6 mois avant où on n'a pas forcément la trésorerie nécessaire.
Et pour vous, en tant qu'organisatrice de ce festival, quand vous entendez Jean-Paul Roland, en effet, pas forcément aux Aurochs, mais quand certains groupes demandent des millions d'euros pour pouvoir jouer, pour vous, il devrait y avoir une limite, en effet, pour les groupes, pour pouvoir, parce que même si, bien sûr, il y a des grands groupes qu'on veut tous voir jouer, mais tout de même, payer des millions d'euros pour les programmer.
En fait, même, moi j'ai fait des études en management culturel, mais je me suis un peu spécialisée du coup dans ce monde du secteur de la musique avec Amapola. Donc c'est assez récent, mais c'est vrai que je suis assez étonnée de l'opacité des rémunérations, même des artistes. Aujourd'hui, bon, on apprend encore en grandissant avec le festival, mais c'est vraiment à l'affection, à l'émotion, à notre jugement de est-ce que l'artiste est connu. Donc peut-être aussi mettre en place même entre les festivals, entre les salles de musique, quelque chose de plus uniforme qui met un peu des grilles tarifaires pour les groupes, parce que ça me paraît assez démesuré finalement, 2 millions pour un artiste qui joue une heure. En tout cas, nous, c'est pas du tout nos problèmes.
C'est ça, bien sûr. Franchement, on l'a vu ça en effet, hein, depuis le Covid, les grands groupes. Alors, il y avait ces deux choses, comme le dit Jean-Paul Roland. Ce qui est étonnant, c'est qu'un artiste comme The Weeknd, qui est peut-être l'artiste de pop le plus populaire au monde aujourd'hui, préfère faire un Stade de France que se produire, par exemple, même au Vieille Charrue, qui est un des plus gros festivals en France. Et par contre, ça coûte, en effet, certains coûtent très très cher. Hein, maintenant.
C'est-à-dire, les artistes, en fait, y a eu, de toute façon, une inflation. Les prix des cachets se sont envolés. D'après ce qu'on a pu regrouper, quand on discute avec des programmateurs ou des directeurs de festivals, c'est ce qu'ils constatent, et que ces cachets qui s'envolent, en fait, s'additionnent à l'inflation en général et tout, qu'on connaît depuis la fin du Covid. Mais ces cachets qui s'envolent. En fait, après, il faut voir aussi que ces artistes-là sont déjà passés par festival. Donc, en fait, quand on prend The Weeknd, par exemple, The Weeknd a déjà joué dans des festivals en France, il a joué dans des festivals un peu partout, et que maintenant, en fait, il se suffit à lui-même. C'est comme ces artistes qui n'ont plus besoin de donner d'interview, alors qu'en fait, à l'époque, en gros, ils se servaient de ça. Je pense que The Weeknd, il rentre largement dans ses frais quand il fait 3 Stades de France, plutôt que de faire une tournée des festivals qui va être peut-être épuisante, qui va demander beaucoup de mobilisation en termes de logistique, etc. Là, il se contente de rester là. Et puis ça permet.
C'est souvent ce qu'on voit ça chez les artistes, c'est-à-dire à un moment on abandonne. À un moment, les festivals, parce que c'est moins... En effet, on est plus renommé, on n'a plus besoin de ça, finalement.
Je pense que ça dépend des artistes, parce que The Weeknd, c'est un artiste pop, c'est une méga star. Mais je pense que, par exemple, un groupe comme Blur était... en tout cas, pour les avoir interviewés récemment, ils étaient... Mais impatients de pouvoir rejouer, quoi. Ils étaient vraiment impatients. Ils étaient impatients de pouvoir repartir en tournée. Ils étaient impatients d'être sur scène et de retrouver le public. À Madrid, là, ils jouaient à Madrid à Primavera. Et en fait, le festival, la journée a été annulée à cause des pluies. Et en fait, au last minute, ils ont dit, mais non, mais c'est pas possible qu'on quitte Madrid sans avoir joué. Donc, ils ont pris une toute petite salle de 1500 places et ils ont invité tout le monde. à venir jouer, c'était gratuit. Voilà.
D'accord.
Bon, après, il y avait que 1500 places.
Oui.
Mais, c'était exceptionnel. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ces groupes-là qui sont mythiques, qui sont, mais parce qu'ils ont, ils viennent déjà d'une culture qui est une culture de festival, qui est une culture un peu plus indie rock, etc.
C'est ça. Mmh.
Et je pense que The Weeknd, le rapport qu'il a au festival est différent, parce que son public forcément n'est pas forcément un public forcément de festival. Ça, je présume. Hein. Voilà.
Voilà, Blur avait fait un clin d'œil à sa jeunesse. En tout cas, allez, on continue à parler des festivals et notamment, on va parler des très gros festivals face aux petits festivals. C'est, vous allez voir David contre Goliath dans un instant, juste après Caroline Polachek avec Welcome to My Island.
Jean-Mathieu Bernin, le débat de midi.
Le débat de midi, on parle de l'offre pléthorique de festivals en France. Peut-être, hein, d'ailleurs, en avez-vous fréquenté quelques-uns cet été. Alors, c'est pas terminé, hein, il y en a encore. D'ailleurs, le festival interceltique de Lorient commence d'ailleurs ce soir. Si bien vous en avez fréquenté, n'hésitez pas d'ailleurs à nous en parler via l'appli France Inter pour nous laisser un message vocal ou un autre message écrit. Hein, voilà, ça arrive aussi maintenant. Ou par WhatsApp au 07 64 13 70 07 07 64 13 70 07. On parle donc des festivals et Emmanuel Négrier, je rappelle, vous êtes sociologue des festivals. Est-ce que aussi l'ambiance des festivals en France a changé un petit peu avec l'arrivée de nouveaux acteurs? Alors le grand public ne connaît pas forcément Live Nation qui produit, hein, qui diffuse aussi des grands artistes, mais ils ont investi des festivals comme Arras, Main Square. Il y a un autre festival américain itinérant qui s'appelle Lollapalooza qui est aussi à Paris. Est-ce que ça a un peu changé, ça, avec l'arrivée de ces gros festivals?
Alors, juste une précision, je ne suis pas sociologue, ah. Je travaille avec des sociologues,
bah, bien, Claude, d'accord,
Aurélien, alors, mais je suis politologue.
Politologue, très bien, enfin, bah, voilà bah, écoutez.
Ça ne m'empêche pas de,
on va changer
de,
un petit
de
peu
goûter la sociologie.
Il paraît.
Alors, oui, c'est une question qui a animé beaucoup et qui continue d'animer le milieu des festivals, hein, l'arrivée de nouveaux groupes et des groupes industriels, AEG, Live Nation, Vivendi, pour ce qui est de la France. Néanmoins, on constate que l'intervention directe dans la prise de possession de festivals reste extrêmement rare.
Ah oui, d'accord.
Ça, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que je dirais presque cyniquement, sans faire le Jacques pour autant, que un grand groupe industriel n'a pas forcément besoin de prendre la propriété d'un festival, dont je rappelle que 80% des festivals sont sous une forme associative, pour en contrôler l'essentiel de ce qui les intéresse. C'est-à-dire d'être un partenaire pour ce qui est de la programmation, d'être donc dans un rôle d'influence sur la programmation des artistes, etc. Et finalement, beaucoup de ces groupes se sont dit, mais finalement, pourquoi vraiment prendre la propriété d'un festival alors qu'on peut parfaitement, disons, avoir une position de plus en plus influente dans la filière en intervenant en partenaire des festivals. Et ça, Jean-Paul Roland pourrait tout bien à sûr, fait en parler. Il y a des expériences, par exemple, Live Nation a été partenaire de Mars Attack au cours des dernières années.
Donc un festival à Marseille.
Un festival à Marseille. Et puis finalement, donc d'une part, Live Nation a perdu de l'argent. Et finalement, l'affaire n'a pas pris. Au bout d'un moment, Live Nation s'est retiré. Et d'ailleurs, Mars Attack a développé un projet culturel et de programmation qui s'est mis un petit peu à distance des grosses têtes d'affiche,
oui, c'est ça.
En redéfinissant un projet autrement.
Sylvia de Labeaume, quand vous voyez justement ces acteurs, ces gros acteurs économiques, là on ne parle même plus de musique, on parle véritablement d'économie, dans votre démarche de festival, aujourd'hui, vous pensez, vous, que vous, justement, vous présentez le contraire de ce que eux, justement, mettent en place?
Oui, sans hésitation. Je pense qu'on présente le contraire. Nous, on a un modèle associatif qui est avec une aventure collective où l'idée, c'est d'engager des bénévoles autour du projet, de produire des artistes émergents. Donc oui, je pense que c'est très différent.
C'est très différent et ouais. C'est encore possible donc d'aller au-delà, de sortir de ces sentiers balisés comme Live Nation, Lollapalooza, enfin voilà, des marques. Voilà, ce sont des marques du festival qui se sont imposées en France.
Oui, je pense que c'est encore possible. Et puis bah, après, on pourra en reparler dans quelques années en fonction de notre croissance et de notre développement. Mais oui, en tout cas, je pense qu'en tout cas, le public est friand d'avoir d'autres récits que ces festivals très stigmatisés.
Alors, Jean-Paul Roland, je voulais avoir votre avis dessus. Mais juste avant, en tant que directeur des Eurocannes de Belfort, on a quelques questions autour d'un sujet très simple, hein, par rapport, en fait, les festivals et réchauffement climatique. Alors, ça peut paraître comme ça assez lointain, mais en effet, il y a Nadine, notamment via l'appli France Inter, qui nous pose cette question. Quelle pérennité pour les festivals en plein air avec des phénomènes climatiques de plus en plus violents? Est-ce que c'est une question aujourd'hui qui sur lequel vous vous penchez et qui peut vous inquiéter à l'avenir?
Bah, toujours, bien entendu, à partir du moment où vous faites déjà quelque chose en plein air, vous regardez quand même plutôt vers le ciel, mais ça, ce sont, j'allais dire, les aléas climatiques. Ce qui arrive depuis très longtemps, bien entendu, c'est maintenant la responsabilité sociétale, c'est-à-dire quel impact sur la nature, etc. Ouais, c'est ça. Alors, il se trouve quand même qu'aux Eurockéennes, bah nous, la question elle était posée dès le départ, puisque on a été installé sur une zone particulière qui est avant une zone naturelle protégée, etc. Il y a de l'eau de chaque côté. Bon, donc on doit faire toujours très très attention. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que même avant que ces questions-là soient encore plus d'actualité qu'avant, il nous est demandé, par exemple, mais pas qu'à nous, mais à d'autres, par exemple, bah de mesurer la qualité de l'eau avant et après. Tout locataire ou utilisateur, on a des mesures environnementales avant et après le festival pour mesurer cet impact-là. Et puis, bien entendu, mais je crois que ça, c'est pas la peine de le redire, mais c'est peut-être quand même essentiel, c'est que les grands festivals sont quand même, je veux dire, maintenant dans une démarche, j'allais dire, de protection environnementale assez forte, au moins sur ce qu'ils font. Là, je donne juste un exemple, par exemple, nous, sur les Eurockéennes, je sais que We Love Green aussi l'a fait, c'est par exemple de tester la vaisselle consignée. Chez nous, ça veut dire à peu près 4 tonnes de déchets en moins, par exemple, vous voyez, mais tout ceci, ça ne se peut marcher que sur une sorte de co-responsabilité. Je vous redonne juste un exemple, on a enlevé la viande rouge au catering, on sert à peu près 7000 repas dans le restaurant technique. Bon, ben c'est presque facile à faire. Et puis, bien entendu, ben, on a des levées de boucliers, des éleveurs locaux, par exemple, vous voyez, d'accord, qui nous disent, mais pourquoi vous faites ça? Et bien entendu, on a des techniciens ou d'autres qui arrivent au resto et qui voient protéines végétales à place de l'entrecôte. Bon, ben, ça demande, bien entendu, tout ça, beaucoup de co-responsabilité,
pédagogie,
d'explication
aussi,
pour avancer, bien entendu, pour essayer, en tout cas, que les impacts soient les plus faibles possibles, en tout cas sur les endroits qui nous sont chers, quoi.
Emmanuel Négrier, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais vous dire simplement que quand on regarde la carte des festivals d'été, la carte de France, on s'aperçoit qu'il y a 4 régions où les festivals d'été sont prédominants, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Autrement dit, là, il y a effectivement un gros signal, un gros risque, parce qu'effectivement, on peut se demander si dans ces régions du Sud, où les chaleurs peuvent être extrêmes, la tenue d'un certain nombre de festivals ne peut pas être compromise à l'avenir.
Oui, c'est ça.
Et là, il y a effectivement une reconsidération, sans doute en cours, de la manière dont on organise un festival, et jusqu'à la question de savoir quand est-ce qu'on doit l'organiser dans l'année. Pour que ce soit confortable.
Jean-Paul Roland.
Pour compléter ce que vient de dire Emmanuel Négrier, c'est que ça pose la question, bien entendu, de l'assurance. On entend dire, effectivement, maintenant, qu'il y a plusieurs festivals, notamment qui se trouvent dans le sud de la France, donc au plus proche, c'est-à-dire des climats peut-être extrêmes estivaux, qui ne pourront peut-être plus être assurés. Et ne plus être assurés, c'est pratiquement condamner le festival. Ça va être une question, à mon avis, très importante dans les années qui vont arriver.
Oui, c'est ça. François Moreau, on voit en effet ces questions. Alors, au départ, il est vrai, avant que l'on prennent véritablement conscience sur le réchauffement climatique. On avait des festivals où quand on avait une bière avec modération et un kebab, on était content. Maintenant, en effet, on voit une offre pléthorique et qui s'adapte en effet à ça, c'est-à-dire au niveau de la consigne des verres. Enfin, on a vu vraiment une vraie évolution et c'est pas du tout pour paraître, pour avoir un label. On sent véritablement qu'aujourd'hui, il y a une volonté de ces festivals à s'engager pour participer aussi à la transition énergétique.
Oui, bien sûr, parce que de toute façon, les festivals, comme toute industrie, on va dire, est forcément sensible aux questions de société qui traversent le temps. Maintenant, il y a dès lors qu'un festival met le pied un peu dans la porte et apporte en fait des nouvelles avancées en termes de prise en compte écologique, etc., les autres quelque part sont obligés d'un peu suivre, surtout quand ce festival-là a une certaine ampleur. Donc les autres sont un peu suivre, mais il y a aussi un autre truc, c'est que c'est là où en fait je pense qu'il faut aussi revenir un peu justement à des initiatives plus indépendantes et à échelle beaucoup plus petite, parce que c'est là aussi où où les festivals peuvent se permettre d'être des laboratoires pour tester des nouvelles façons d'organiser un événement musical. Je pense que, par exemple, si vous allez à des festivals comme Pete the Monkey en Normandie,
oui.
Voilà, qui est un petit festival qui a grandi, qui a grossi, qui a doublé en termes de fréquentation, mais qui en fait, c'est eux qui disent, j'ai pas mené l'enquête, mais qui ont réussi à réduire pour autant en fait leur empreinte carbone en fait en avec des gestes assez simples comme Jean-Paul Roland dit, enfin il suffit aussi des fois de ne pas servir de viande aux Catherine ou des choses comme ça, et ça permet en fait de limiter son impact et en fait il y a des comme ça des avancées au quotidien qui peuvent se faire à travers ces trucs là mais c'est important, je pense, les festivals indés, parce que c'est aussi eux qui donnent un peu aussi le rythme à tout ça.
Sylvia de la Baume, on le voit alors rapidement parce qu'on va le voir, mais c'est une question qui revient régulièrement aussi par rapport au festival, et notamment, j'imagine, vous, festival indépendant plus petit, où c'est là où ça doit avoir un impact encore plus fort. On a vu l'année dernière, en 2022, 81% des festivals déclarent avoir rencontré une augmentation des coûts techniques. On entend souvent, hein, ça, chez les personnes qui organisent des festivals, que ça devient plus cher aussi pour vous à organiser. Est-ce que vous le constatez, vous aussi, ça ?
Oui, on a eu une augmentation due à l'inflation de façon générale. Donc, en fait, on le prend en considération et malheureusement, souvent, c'est au détriment aussi de la programmation. Mais encore une fois, enfin, je pense que voilà, nous, on reste quand même sur des petites équipes. Donc,
ça vous oblige à augmenter le budget de la programmation ou derrière, ou même de faire le prix des places.
On a augmenté le prix des places. On a augmenté très légèrement le prix des consommations, mais oui, enfin, on a suivi l'inflation à la fois des deux côtés, quoi, parce que.
Jean-Paul Roland, une dernière question. L'année prochaine, 2024, très rapidement, je sais qu'on sait tous qu'il va y avoir un événement particulier l'été, puisqu'il y aura les Jeux Olympiques. Est-ce que les Eurocaines de Belfort vont se tenir, malgré tous les doutes qu'il y avait pu y avoir autour de la sécurisation des sites de festivals ?
Alors, des doutes, effectivement, il y en a eu. Par contre, effectivement, ça se tiendra bien aux bonnes dates, c'est-à-dire toujours le premier week-end de juillet. Ce qui est vrai, peut-être la chance qu'on a, paradoxalement, c'est qu'on n'est pas ni de flamme olympique qui passe à Belfort, et d'être un petit peu en dehors de ça. Mais c'est vrai que ça a été quand même quelque chose qui était plutôt dur à avaler, hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous qui croyons naïvement que on allait profiter finalement des JO et de toute l'énergie autour, on s'est vu aperçu qu'on était limite presque personnel. Nous grata pendant l'été, quoi.
Merci beaucoup Jean-Paul Roland, Emmanuel Négrier, Sylvia de la Baume et François Moreau d'être venus débattre. La réalisation, c'était Étienne Martin. Technique, Guillaume Fichu. Une émission préparée par Constance Villanoa, Aloïse Nollet, Mathilde Texier et également Swan Rueland. On se retrouve bien sûr lundi. Le débat de midi prend fin.